RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous, c'est l'After Foot, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio sur RMC, à la télé sur BFM Sport ou encore en allant sur notre site internet rmcsport.fr. L'After jusqu'à 23h. Et ce soir, pour vous régaler, le chef de presse de l'After qui préfère s'occuper de Raymond Domenech que de Booba, François Manardeau. Salut François.
J'ai toujours pas réussi à avoir les images d'Orly.
C'est vrai?
Mais ouais. Et puis il y a même des contenus indisponibles. Je pense qu'il n'y a pas les avocats qui sont en train de s'en mêler pour effacer les vidéos. Non, mais moi, une.
Non, mais là, c'est grave.
Une espèce de pugilat, bouteille de parfum, j'aurais voulu voir ça.
Entre Booba et Caris, et puis aussi les suivers des.
Quoi, ils étaient une personnalité
sur la gueule? Oui, c'est ça, à peu près.
Ah,
voilà,
c'est ça.
Aéroport d'Orly, où le terminal a été fermé, voilà, si vous n'avez pas subi cette information.
Ils ont quand même réussi à faire que les avions décollent pas. Hein.
Ça, c'est pas mal.
Exactement.
C'est quand même extraordinaire. Sur la gueule, ils bloquent terminal. À Orly, quoi.
J'aurais cru faire parce que,
moi. Entre non, mais il avait envie de faire grève, personnel d'Orly.
Non, mais ça m'étonne, parce que j'ai quand même croisé 3-4 fois Booba à Miami.
Ouais.
Mais ça m'étonne parce que le personnage, quand tu vois avec lui, quand t'es assis, tu bois un verre avec lui, il est vachement calme. Ouais. Il est tranquille, le gars.
Ouais,
le voir comme ça en pujala.
Pujala. Mais sinon, il était pas pujala, en pujama, peut-être. Pujala, on n'a pas l'information s'il a mis le pujama.
Mais c'est ça.
Non, mais il se déteste.
Oui, mais les rappeurs comme ça jouent aussi avec ça pour faire. C'est de la communication.
On m'a dit que ça, ils ont pas joué là. Ils ont joué le vrai plutôt.
Oui, mais c'est un jeu.
Non, mais JC, il a peut-être raison parce que ils se sont rencontrés par hasard ou ils se sont rendez-vous donné à Orly. C'est quand même curieux.
J'ai pas d'information.
Et je te corrige.
Je ne sais pas si Caris était Caris.
Chef de presse de c'est Solène Delobel qui est l'attachée de presse de RMC Sport. Voilà.
Ouais.
Il faut lui rendre cet hommage.
C'est pas ça, c'est que.
La petite Solène.
Non, mais très bien, mais mon introduction, ça dénote soit un trait de votre personnalité, soit le métier
mais
que vous faisiez avant.
C'est pas que ça aussi. C'est une longue carrière.
D'accord, alors tu as fait quoi d'autre? Et puis la prochaine fois, je note. Vas-y, dis-moi, et puis je changerai pour mon prochain.
La pub, non, sinon on va me dire.
Le publicitaire. Le publicitaire.
Tu te souviens de quoi on avait parlé dans notre première rencontre dans une autre chaîne de télévision? Voilà, mais pas que ça.
D'accord.
Et Sam, il poit, sinon on peut.
Bah oui, parce que remettez la musique, s'il vous plaît. Sam. Bah forcément, vous êtes tout de suite parti sur Booba alors que j'ai pas fini ma présentation.
Bah arrête, François, t'aimes bien qu'on parle de
Lyon.
C'est beau ça.
Attention, parce que je suis en train de parler. Le Lyon indomptable de l'After qui, malgré son physique imposant, n'était pas convié à Orly aujourd'hui. Sam, il poit. Salut Sam.
J'aurais pas fait le poids de toute façon.
Oh si.
Bonsoir.
Oh si, t'aurais
une petite pêche. Tu as des bastons, toi, aux entraînements?
Honnêtement, non.
Jamais.
Si, il y en a eu souvent, mais bon, c'est ça.
Souvent?
Non, de temps en temps, je veux dire. De temps en temps, mais ça
c'est. T'étais bagarreur ou pas, toi?
Non.
Je te vois tellement doux et tout ça.
Non, du tout.
Okay. Moi, une fois, j'ai assisté à un
entraînement. Je me laissais pas faire.
Pas une baston, mais ça avait bien chauffé. Pendant la Coupe du Monde.
C'est vrai?
Ouais. Et,
vas-y, raconte-nous.
Le coach avait dit à Flo Malouda de quitter l'entraînement tout de suite. En fait, Maloud, il fait un tacle
appuyé.
Ouais, à la Guyanaise, quoi. Bam, il met une boîte et en plus il choisit le bon, quoi, sur les 23, il prend Mathieu Valbuena. Ouais. Tu veux Mathieu, il fait soleil.
Volontaire ou involontaire? C'est ça qu'on veut savoir aussi.
Non, pas volontaire si tu veux, mais
viril,
quand,
quoi.
Mais quand t'es pro, tu sais, surtout dans les entraînements.
Ouais, tu peux maîtriser.
Tu contrôles, tu maîtrises. Il a rien maîtrisé. L'autre, il a fait 4 tonneaux.
Et après c'est parti en bagarre.
Non, parce que il est THS, hein, Mathieu, et il s'est même pas penché sur Valbuena pour dire est-ce que ça va.
Ah oui, d'accord.
Visage fermé, ouais. Donc là, du coup, le coach il a dit bon, allez, c'est pour toi, c'est terminé.
Okay.
Et là, moi j'étais à côté sur le banc et
c'est terminé pour Flo.
Hein?
Pour Flo, c'était fini, c'est ça?
Ah ben il a arrêté l'entraînement.
Il a arrêté l'entraînement. Alors c'est
quand tu te maîtrises pas et tu mets un tac comme ça.
Surtout si c'est la veille d'un match ou l'avant veille.
Je sais plus, non, peut-être avant veille. Mais Malouda, il était pas content. Hein, après j'ai entendu ce qu'il a continué à dire. Bon bref.
Mais au moins ils ont pas fermé le centre d'entraînement pour ce qu'il s'est passé. Ça n'a rien à voir donc avec cette histoire d'Orly. Dans quelques instants, Willen Cyprien est notre invité à 21h20. La vie tranchée de François Manardeau, le crash test du VAR en Ligue 1 à 21h40. La vie tranchée de Samy Pou. poids au cœur de l'affaire Anthony Martial aux côtés de son épouse pour la naissance de leur fils. Il faut laisser les footballeurs vivre leur vie d'homme. Ce sera ton avis à 22h, interview exclusive avec Lassana Diarra. A-t-il une vraie carte à jouer au Paris Saint-Germain cette saison? À 22h20, toutes les informations mercato du jour. Et puis à 22h40, vous le savez, le quiz comme d'habitude. Appelez le 3216 pour y participer, mais aussi pour réagir à nos débats, le hashtag RMC Live ou le compte Facebook de l'émission. L'image du jour, regardez, c'est la suite du retour des héros. Regardez si vous êtes sur BFM Sport, sinon écoutez, ça va être génial aussi. Les champions du monde reviennent sur leur terre. Corentin Tolisso était aujourd'hui à Amplepuis dans le Rhône. L'enfant du pays a été acclamé place de la mairie. Les plus fervents admirateurs de Corentin Tolisso, une trentaine, hein, attendaient depuis 13h30. Il est arrivé aux alentours de 19h pour être aux premières loges. Ils ont été rejoints par quelques 2000 curieux venus applaudir le champion du monde. Le maire de la commune a offert aux joueurs un maillot du stade amplusien, floqué de son nom et portant le numéro 12, son numéro à la Coupe du Monde, et l'a fait citoyen d'honneur de la commune en lui remettant la médaille de la ville. Toujours sympa de voir ça.
Ouais, très sympa. En plus, il y a peut-être quelque chose que je trouve encore plus sympa, c'est que il doit être pas très très loin de la reprise avec le Bayern. Et donc, il a laissé un peu le temps, tout ça, de redescendre gentiment.
Oui, mais donc, et on y est moins.
Il se remet une charge, en quelque sorte.
Oui, c'est
tu
vrai.
Vois, bonheur.
Oui, mais on y est moins. Par exemple, Antoine Griezmann, juste après à Macon, forcément, on est
ouais,
plus, tout le monde est plus dedans.
Nice.
Oui, exactement.
Mais, il se remet une dose, quoi.
Okay.
Et c'est pas ça. C'est pas terminé, hein. Ça va continuer même pour les autres quand ils vont revenir jouer. T'imagines la reprise de l'équipe de France, septembre contre les Pays-Bas ou l'Allemagne au SDF?
Ce sera la Ligue des Nations.
La Ligue des Nations, la Nations League, ça a une grosse ambiance.
Exactement. En tout cas, voilà, on voulait débuter cette émission par cette belle image et cette information concernant Corentin Tolisso qui a été fêté par les siens. Il a réussi à se faire un nom malgré ses deux prénoms. Wilan Cyprien est l'invité de l'After. Bonsoir Wilan.
Bonsoir.
Bonsoir Wilan. On vous l'a déjà fait celle-là?
Pas encore, c'est la première fois.
Ah bah, je suis honoré, Wilan, d'être...
C'est
d'être
la dernière, j'espère, Wilan. Hein.
Ouais, ça me fait plaisir, Wilan. Merci en tout cas d'être là dans l'After. Bon, il n'est pas encore très tard, 21h07, mais forcément, il y a une préparation, il y a des entraînements, il y a des matchs bientôt à venir, et une saison remplie de bonheur et de succès, on l'espère pour vous. Déjà... Comment vous allez, Wilan? Rupture des ligaments croisés en mars 2017. Vous êtes revenu il y a à peu près huit mois. Qu'est-ce que je veux dire? Vous êtes revenu il y a huit mois à la compétition, un peu plus. Comment vous allez physiquement?
Bah, j'ai envie de dire, je suis en train de retrouver mon corps et ça fait du bien. Parce que depuis la reprise, il y avait 2-3 pépins musculaires, mais c'était la suite logique après aussi grosse blessure, et là. Une bonne préparation et je me sens bien, et du coup hâte de retrouver la Ligue 1 et de commencer le championnat qui, j'espère, nous réserve de belles surprises.
Alors en 2016-2017, c'était l'année de, on va dire, de la révélation. Vous étiez l'une des révélations de la Ligue 1. 2017-2018, évidemment, avec cette blessure en mars 2017, eh ben, il fallait retrouver une forme. Est-ce que cette prochaine saison, vous voulez être, une consécration, une confirmation? Qu'est-ce que vous voulez être pour cette saison, Wilan?
Oh, c'est confirmer les choses que je fais de bien et progresser là où j'ai des petites lacunes, notamment défensivement, et franchir un palier avec le GC Nice. Du coup, à cœur de faire une très grosse saison, et sans les pépins physiques, si possible.
Oui, on l'imagine. François Malardo a une question pour vous, Wilan.
Ouais, Wilan, bonsoir. Avec Lucien Favre, tu as fait tes débuts en L1 et il t'a utilisé presque à trois postes. T'as joué en 6, t'as joué aussi parfois en 8. T'as même joué un petit peu ailier ou faux ailier. On avait l'impression comme ça que t'étais un petit peu baladé. Est-ce que d'après toi, c'était parce que ça participait à ton apprentissage et qu'il voulait te faire évoluer, mûrir tactiquement, ou bien c'était parce que t'avais du mal parfois à trouver ton vrai rôle, ta vraie place, comme une évolution aussi personnelle sur le terrain?
Non, pas du tout. Enfin, c'est avec Comboiré, j'avais déjà découvert la Ligue 1, même si c'était très compliqué avec le Racing Club de Lens. Et lui, il m'avait formé à plusieurs postes, exprès justement pour mettre des cordes supplémentaires à mon arc. Et du coup, le coach Favre, comme il savait que j'étais polyvalent, il m'utilisait là où il avait besoin.
Et ta préférence?
Oh, moi, c'est être en numéro 8 pour me projeter vers l'avant. Mais après, comme je dis souvent, au milieu de terrain, c'est les postes, c'est pour défendre. Après, quand on anime le jeu, du moment qu'il y en a un qui reste pour défendre, après, on fait parler notre inspiration et le talent. Et du coup, il faisait un petit peu avec les moyens du bord, comme il y avait à la salle qui était blessé, sur les droits. Après, il y avait besoin d'un numéro 6, on n'avait pas de vrai numéro 6. Donc, j'ai aidé l'équipe. Et comme je sais le faire, je l'ai fait avec le plus grand bonheur et le plus de détermination possible, et ça fonctionnait bien jusqu'à ce qu'il se pépine. Mais bon, là c'est une nouvelle saison qui commence avec un nouveau coach qui a un nouveau projet, qui a l'ambition de nous faire être plus tranchant et garder notre jeu qui nous caractérise, c'est-à-dire la possession de balle, mais en étant plus tranchant dans les derniers mètres.
Willem Cyprien est dans l'after, notre invité, le milieu de terrain de l'OGC Nice. D'ailleurs, dans quelques instants, on va parler de Patrick Vieira, le nouveau coach de Nice. Tu avais une question, Samy Pois, oui, toi Willem, qui es passé par Nice.
Ouais, bonsoir Willem. Tout à l'heure, tu parlais de ton corps, de vouloir le retrouver. Et justement, quand tu as eu une blessure comme tu as eu, qui était assez longue, justement, est-ce que tu as pas peur justement d'avoir peut-être perdu déjà peut-être de la confiance et en explosivité?
Non, parce que ça fait pratiquement un an là qu'on bosse depuis 10 reprises. Mmh. Je me sens bien, je me sens fort, je me sens fort sur mes cannes. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, j'ai hâte de retrouver le début de championnat, parce que l'année dernière ça commençait à revenir, mais chaque fois que ça revenait, enfin il y avait une blessure musculaire, du coup c'était reparti pour 3 semaines, le temps de reprendre le rythme. Mmh. Puis il restait une petite dizaine de matchs, donc enchaîner c'était compliqué. Et là j'ai hâte justement parce que je sens que les blessures, là mon corps il a encaisser, on va dire, les charges de travail que j'avais accumulées pour revenir assez vite d'une grosse blessure. Et du coup, je me sens bien, fort sur les jambes. Et ça fait maintenant presque un an qu'on travaille comme des balades avec tout le staff de l'OGC Nice pour que je revienne en forme. Et j'espère que ça apportera ses fruits cette saison.
Donc, tu as pris ton temps un peu. Vous avez pris votre temps pour que tu reviennes, enfin, que tu retrouves en tout cas les terrains, quoi.
Oui, bien sûr. Déjà, dans un premier temps, pour retrouver les terrains, on a pris le temps. Et on savait qu'aussi, ils n'avaient pas retrouvé le niveau que j'avais quand je me suis blessé en un clin d'œil. On savait que ça allait mettre beaucoup de temps. En général, on dit que c'est un an après la blessure et on y arrive bientôt. Donc j'espère que ça sera pour bien repartir.
François Malardo.
Ouais, Willan, lors d'une interview que tu avais accordée pour ta première saison avec le GC Nice, tu avais aussi parlé de ta progression. Je me souviens par exemple sur le niveau technique, tu disais que t'avais mieux assimilé le fait de prendre le ballon, de recevoir le ballon de la part de tes défenseurs de trois quarts pour tourner plus vite vers le jeu. Alors il se trouve que t'as un jeune entraîneur, néanmoins qui a été un joueur immense et qui connaît bien ce poste de 8, enfin 6,5 ou 7,5 comme vous voulez, mais de 8 plutôt. Est-ce que dans sa relation, que je sais déjà très forte, qui partage beaucoup de choses avec son effectif, est-ce qu'avec toi et sur ce poste-là, si tu joues en 8 cette saison avec le GC Nice, il a déjà échangé quelques petites choses? Est-ce qu'il t'a donné des petits trucs en plus, des petits détails comme ça pour vous faire progresser ou te faire progresser?
Bah, il le dit, enfin, depuis qu'il est arrivé, j'allais dire souvent, mais depuis qu'il est arrivé, lors de notre discussion, c'est souvent, il me place plus tactiquement que quand on a le ballon. Quand on a le ballon, il dit, je vais pas t'apprendre à faire un contrôle, une frappe, je sais ce que t'es capable de faire. Mais il me repasse tactiquement pour défendre, pour être le mieux placé possible et courir le moins pour être le plus performant possible. Puis après, quand ça vient d'un grand monsieur comme ça, des conseils, il n'y a plus de coach qui tienne ou de quoi que ce soit. Enfin, on voit le grand monsieur Vieira, et perso, pour moi, c'était un idole. Et du coup, quand il me parle, enfin, j'écoute beaucoup plus facilement. Et je sais que ça vient d'un mec qui a fait une immense carrière. Et du coup, j'ai qu'une chose en tête, c'est d'exécuter, on va dire, ses conseils pour être le plus performant possible. Ce qu'il me dit, c'est qu'il sait de quoi il parle.
Willan, tu sens de la part du reste de l'effectif aussi une espèce de, évidemment le respect parce que c'est votre coach, mais aussi d'admiration par rapport au joueur qu'il a été, et aussi un petit peu le charisme de Pat Vieira?
Bien sûr, bien sûr. Enfin, il dégage une force tranquille qui est impressionnante, surtout, avant tout. Et puis même, il y a des coachs que j'ai pu avoir, je disais, il a jamais joué au foot, donc peut-être qu'il a plus souvent raison, mais peut-être que certaines choses, il sait pas de quoi il parle, tandis que là, quand il parle, il a le respect de tout le monde, et il y a personne qui conteste sa parole. On est tous en admiration, entre guillemets, pour lui, et je pense que ça peut créer un truc de beau, parce que quand il nous donne des consignes, des exercices tactiques, tout le temps, c'est à fond, tout le temps, enfin, tout le monde a envie de lui montrer qu'il est présent et qu'il peut compter sur lui, quoi.
On connaît bien Patrick Vieira, évidemment, en tant que joueur, beaucoup moins en tant qu'entraîneur, parce qu'il s'est exilé pour apprendre son métier. Vous en avez beaucoup parlé, William, mais il est comment dans la vie de tous les jours? Est-ce qu'il est vraiment proche de ses joueurs? Est-ce qu'il est paternaliste? Est-ce qu'il est pointueux? Qu'est-ce qu'on pourrait décrire du caractère de Patrick Vieira?
Comme je disais tout à l'heure, c'est la force tranquille, donc il dégage une assurance sans s'énerver. Et après, il est très pointueux sur les règles de vie commune, sur la ponctualité. Et après, ça dépend des joueurs. Il a des joueurs avec lui, avec un peu plus.
Sur la ponctualité, pardon, Willan, sur la ponctualité, il y en a un, il n'a pas donné l'exemple, hein, mais on en parlera tout à l'heure, mais pardon, allez.
Continuez, Willan.
Et donc, je disais, il agit différemment avec tous les joueurs. Et avec un mec comme Dante, ça va être plus un ami proche de lui qui va le conseiller sur comment se placer. Enfin, il n'a pas grand chose à lui apprendre, donc ça va plus être son ami, tandis que des mecs comme plus jeunes, comme Alan et Saint-Maximin, ou les jeunes Frafi, il sera beaucoup plus paternel en essayant d'être moins brut avec eux qu'il peut l'être avec certains. Et enfin, il s'adapte aux joueurs. Et en étant ancien joueur, il sait ce que ça fait. Enfin, des joueurs, les moments difficiles, les moments compliqués, donc c'est des choses qui sont beaucoup plus facilement qu'un coach qui n'a pas eu une immense carrière, je pense, et du coup, dans sa gestion de l'effectif, je pense que ça va lui rendre un grand service dans le futur.
Samy Poix.
Ouais, Willan, est-ce que tu sens qu'il est un peu dans la même philosophie que Lucien Favre, que vous avez eu l'année dernière dans le style de jeu, effectivement?
Un coach joueur, c'est ça?
Oui, voilà, exactement. Est-ce que c'est un coach joueur, justement? Est-ce que tu as l'impression que cette année on va avoir un OGC Nice plus ou moins offensif, ou un OGC Nice qui va plus ou moins attendre dans ses 40 derniers mètres pour essayer d'exploiter les espaces qu'il y aura derrière les défenses adverses?
Nous on va garder le jeu qui nous caractérise depuis maintenant 4-5 ans, je dirais, c'est-à-dire la possession, le beau football avec des petites passes. Et lui, ce qu'il veut apporter à cette équipe, c'est d'être plus tranchant vers l'avant, parce qu'avec les qualités qu'on a, notamment avec Saint-Maximin, et j'espère qu'il y aura des autres recrues qui vont arriver, et je fais confiance au club là-dessus, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'il recrute de bons joueurs. Il veut vraiment qu'on devienne plus tueur devant le but et plus structuré lors de nos attaques, parce qu'avec ça, c'était la possession, et puis après, on s'est parlé l'inspiration devant, il laisse parler la créativité des joueurs, tandis que là, fait travailler beaucoup de schémas bien précis pour faire mal à l'adversaire selon la façon dans laquelle elle défend.
Bon, Willan, il faut qu'on parle, Willan. Vous savez, dans une interview, forcément, il y a ceux qui prennent les questions plutôt faciles, ouais, ceux qui prennent les questions un peu plus techniques,
vas-y,
tout
vas-y,
ça.
Vas-y,
et il y a donc ceux qui prennent les questions un peu patates chaudes, et j'ai décidé de remplir ce rôle, Willan, sans aucun problème.
C'est pas téléphoné, votre truc, hein?
Pas du tout. Non, mais c'est pour mettre en France un peu, Willan. Bon, vous êtes à Nice, forcément, on va parler, et on parle beaucoup de Mario Balotelli. Est-ce qu'il vous parle de son avenir?
Pour l'instant, pas encore. Mais c'est un dossier sensible et compliqué, et du coup, qui dit dossier sensible et compliqué dit pas beaucoup d'infos qui fuitent, et donc du coup, il en parle pas trop. Je pense que quand ça va décanter pour son avenir, il nous en parlera, parce que d'être collègue sur le terrain, c'est un ami, on passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit avec lui, Dante, ou à l'époque avec Alassane Player et Jean-Michel Seri, donc du coup, c'est pas pour faire la langue de bois, mais pour l'instant, j'ai pas d'infos à vous donner.
Ouais. Non, alors moi je vais parler quand même aussi d'un nouveau joueur, Danilo Barbosa, qui s'est engagé avec l'OGC Nice, le Brésilien en provenance du Portugal. Tu peux nous en dire un mot ou deux même de ce que t'as pu voir déjà?
Moi, j'étais agréablement surpris, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi vite intégré dans le moule, alors qu'il ne parle pas encore notre langue, qui est français. Et il fait des efforts, il parle anglais, puis il est rentré dans le moule tout de suite. C'est-à-dire que on s'entend bien, que ça soit avec lui, avec les Smelo, avec Tamez, comme s'il était là depuis 2-3 ans. Et j'étais agréablement surpris par sa justesse technique et surtout son agressivité. Et je pense que c'est un truc qui nous manquait sur ces dernières années, c'est d'aller gratter des ballons dans les pieds des autres, des adversaires. Et je pense que lui, il va nous amener beaucoup de ça cette année, et ça va nous faire du bien.
Bon, Willan, il faut qu'on parle, parce que je suis vraiment désolé. Moi, je pensais qu'on allait vous laisser tranquille avec Mario Balotelli. Et Samy Poix n'a pas du tout entendu la première réponse à Mario Balotelli. Je crois qu'il a une question. On avait dit quoi William, sur Mario?
Je reviens un peu sur Mario Balotelli, parce que tu nous as quand même dit un mot qui est quand même sensible. Effectivement, qu'il ait des affinités avec toi et Dante, c'est une chose, mais c'est pas vous deux qui faites le groupe. Est-ce que le fait que ça soit un sujet sensible, est-ce que extérieurement, nous, on aurait peut-être l'impression qu'il pourrait mettre un grain de sable, qu'il pourrait un peu bouleverser un peu l'équilibre, justement, de cet OGC Nice qu'on a vu quand même, comme tu viens de le dire, fringant depuis 3-4 années. On sent que, quelque part, le groupe vit bien. Il y a eu un très bon travail qui a été fait avec Balotelli. Maintenant, ça fait 2 ans. Et, quelque part, on a peut-être peur, vu de l'extérieur, que le fait justement de son indécision qui vienne un peu en retard, que ça perturbe un peu la marche un peu en avant de cette OGC Nice et du vestiaire.
C'est la question la plus longue du monde, Willan. Moi, j'ai décroché il y a 10 minutes, mais tu peux répondre.
Non, j'ai compris la question, mais...
Merci, Willan.
En fait, ça perturbe le groupe, parce que maintenant, c'est pas le Mario Balotelli qu'on a connu à Manchester City ou auparavant, qui était encore jeune et qui était un peu fou, là. Il est beaucoup plus mature et il a eu 2 enfants. Même dans la vie du vestiaire, tous les jours, nous, on le voyait, il conseillait les jeunes, il nous aidait dans les moments compliqués, quand il y avait des matchs un peu en jeu. Lui qui a un petit peu moins l'impression que nous, mais non, c'était déjà prévu qu'il vienne en retard après la reprise.
Ah, c'était prévu.
En sélection avec l'Italie. Donc, c'est plus les médias qui en font tout un plat. Après, pour la suite de sa carrière, moi, je trouverais ça logique qu'il trouve un projet qui lui plaise un peu plus. Il y a un peu plus d'enjeux, qu'il soit plus grand, parce que c'est un joueur extraordinaire et je pense que s'il avait pas fait cette connerie, il aurait rien à faire avec nous. Et je le pense sincèrement. Donc non, ça va pas mettre un grain de sable. Il est assez mature pour savoir que s'il plombe le vestiaire, c'est lui qui va couler en premier, parce que s'il a pas une bonne équipe solide autour de lui, il pourra pas briller pour avoir les clubs ou la carrière qu'il a envie d'avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un père de famille qui a pris beaucoup en maturité et qui vient, qui est très professionnel, qui s'entraîne et qui est en train de se remettre en forme pour son prochain club. Bon, reste avec nous, ça. Après, c'est entre dirigeants et clubs que ça se décidera, mais je pense pas que ça soit un frein pour l'OGC Nice. Bien au contraire, s'il reste, ça va être un plus majuscule pour nous.
Donc s'il part pas, il sera le bienvenu dans le vestiaire, quoi. En tout cas,
Bien sûr, je connais pas un vestiaire de Ligue 1 qui ne dirait pas qui serait pas content d'avoir Mario Balotelli.
Exactement, Willan. Bon, il faut qu'on parle. Non, je blague. Évidemment, c'est bon pour Mario Balotelli. On a bien compris. Vous êtes papa depuis peu, Willan. C'est alors déjà, félicitations.
Ah oui,
forcément. Une petite fille. Moi, j'avais une question très technique. Ça va comment les nuits en ce moment?
Bah, les 2 premières semaines, c'était l'enfer.
Ouais.
Et là, depuis, ça va beaucoup mieux. Elle fait des bonnes nuits de minuit à 6h30, 7h. Et vu que le coach, il met le petit-déj tous les jours à 7h30, c'est parfait pour aller au petit-déj.
Willan, j'ai une petite question parce que ça sera un peu par rapport à mon avis tranché tout à l'heure. Comment toi, t'aurais pris éventuellement un coach qui t'aurait plus ou moins empêché d'aller voir la naissance de ta fille? Est-ce que tu...
J'explique juste par rapport à cette question, je sais pas si Willan a vu cette information, on en parlera tout à l'heure, mais c'est Anthony Martial, il y a une semaine, qui s'est rendu à Paris, qui a quitté le stage de pré-saison pour se rendre à l'hôpital aux côtés de son épouse. On a senti la première déclaration de José Mourinho en disant oui, il est parti, je sais pas trop où il est. On a senti qu'il était un peu agacé. Aujourd'hui, rebelote, et Anthony Martial qui a tweeté quelque chose d'assez acerbe sur Twitter, il lui a répondu en lui disant ma famille passera toujours avant le reste. Voilà, c'était juste pour la question maintenant, c'était juste pour remettre en situation.
Non, voilà.
Avant de le vivre, c'était compliqué de comprendre que c'était la plus belle chose du monde, mais maintenant que je l'ai vécu, je pense que je serais dans le même cas, enfin, même état d'esprit que lui, c'est-à-dire pour un au monde, je le raterai et ma famille, elle passera toujours aussi avant tout. C'est-à-dire, est-ce que tu fous que... C'est éphémère, ça ne durera pas toute la vie, tandis que son sang, sa chair, ça sera toute la vie.
Bon, ben voilà, c'est la réponse. Ouais, mais non, mais qui se fâche pas quand même, Willan, avec José Mourinho, hein, parce que ça pourrait être son prochain coach plus tard.
Je veux revenir.
Le du chat et de la souris, ils se lancent des piques parce qu'il y en a un qui veut partir, l'autre qui veut qu'il reste. Hein. qui se lance des piques, mais je pense que même M. Mourinho, dans le fond de sa pensée, lui non plus, il raterait pas une naissance de sa dame, ses enfants pour un match de foot.
Il est bon, Willan, hein, en interview. Willan, pourquoi vous venez pas faire l'after tous les soirs plutôt que de jouer avec
la directrice de la communication?
Oui, oui, oui.
Je vais déjà essayer d'être bon au foot, puis après on verra. Pour
alors à propos d'être bon au foot, tu gardes les coups francs?
Bah, si Mario il reste avec nous, on a tel on fera bien après chaque coup franc.
Ouais, ça dépend si on est plutôt côté droit ou côté gauche.
C'est ça. Ouais.
Non, mais en tout cas, t'as prouvé que t'avais un bon pied, hein.
Parce que... Ah, bah, attends, celui du Parc de Princes, ouais, bon, lui, il s'en souvient évidemment, mais nous, on s'en souvient aussi.
Ah, mais il faut que ça continue.
Il n'y a pas eu que celui du Parc des Princes, d'ailleurs, parce que t'as marqué un corps sur coup franc.
À Nice, presque même. Identique. À Nice.
À l'Allianz, je crois que c'était quelques jours après ton retour.
Ouais, exactement.
Une semaine après,
c'est le but de la victoire, si je me souviens.
Willan, avant de vous libérer, une dernière question, elle concerne Mario... Non, je blague. Mec, qui n'arrête pas avec Mario Balotelli, insupportable. Non, une dernière question. On parlait d'objectifs, de la saison, tout ça. Personnellement, au niveau des buts, des passes D, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on se dit, on aimerait bien, comme au basket, un double-double, 10 buts, 10 passes D? Est-ce qu'il y a comme ça un petit chiffre à donner?
Bon, si j'y passe des buts, moi je finis tout de suite, mais non, je me fixe pas d'objectif, je me mets pas de limite, si je peux aller 15, 16, j'irai, je donnerai tout pour aller le plus haut possible en termes de stats.
Bon, on vous le souhaite en tout cas et on espère que le GC Nice va faire une grande saison. Merci beaucoup en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir par téléphone.
Merci Willan.
Dans l'after. Merci. Et
bonne saison.
Merci Willan, Cyprien.
Merci,
et bonne chance à ta fille et à tout le monde.
Exactement.
Merci, c'est gentil.
Belle nuit et belle saison. Dans quelques instants, on se retrouve pour la suite de l'after. Nous allons parler du VAR, cette assistance à l'arbitrage vidéo. Ce sera la vie tranchée de François Manardeau. À tout de suite sur Hans.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
Il est 21h28, vous écoutez, vous regardez peut-être l'afterfoot. Vous le savez, c'est sur RMC, sur BFM Sport, toujours avec François Manardeau, avec Samy Poix. Il était bon, Willan?
Excellent.
Il a répondu à tout, Mario Balotelli.
C'est surtout un bon joueur, je trouve. Quand il a été, lors de sa première saison avec le Gym, ça a été, ouais, tu l'as dit, ça a été une belle révélation de la Ligue 1 en provenance du RC Lens, de Ligue 2.
Ouais. S'il avait continué comme ça, s'il ne s'était pas blessé, je pense qu'il serait déjà ailleurs, quand même.
L'image, il se fait les croisés seul, quoi. Il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de tacle.
Au parc, il avait été très bon, au parc. Le but qui marque,
il avait été très bon. Ça avait été très très bon équipe, mais le Gym avait perdu gros quand il se fait les croisés. Ouais.
Exactement.
Bon, après maintenant, quand il dit justement que c'était permis que Balotelli arrive en retard,
on n'est pas obligé de le croire. Mais bon, on va dire qu'il a des nuits compliquées, donc il a peut-être.
On sait que pour un joueur, en tout cas un coéquipier, ça le concerne pas. Donc c'est assez compliqué de répondre à cette question.
Ça le concerne pas, mais vous avez bien insisté, Monsieur Drouet.
Mais forcément.
Par contre, j'ai bien aimé hein, quand il dit effectivement que Balotelli, ça serait plus ou moins pour lui hein, s'il se met pas au diapason des entraînements de l'équipe. C'est lui qui a beaucoup à perdre.
Oui, exactement.
Quoi.
C'est lui qui a tout à perdre et c'est pas le club. Non, mais il a été franc et
ouais,
bon.
Il a été franc.
Alors forcément, il doit en parler avec lui, mais il peut décemment pas nous dire ce que Mario Balotelli lui dit.
Ça, non, mais tout Mario Balotelli qu'il est, il a réalisé son agent avec lui que le GC Nice met toujours l'institution avant ses joueurs. Et ils ont tout compris là-dessus.
Non, mais je pense qu'il est parti peut-être pour rester, hein, finalement, Balotelli, quelque part. Ça...
On ne va pas ouvrir le dossier Mario Balotelli. Ouais. Ça semble compliqué qu'il reste à l'OGC Nice. Ouais. Maintenant, tu as raison, Samy Poix. Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. La vie tranchée, tout de suite, de François Manardeau.
Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair.
Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question.
Eh oui, c'est ta question et moi je n'ai pas de réponse. En tout cas, je ne te couperai pas malgré que tu emploies le mot circoncis. Ton avis tranché dans quelques instants. Le VAR qui va être un véritable crash test de la Ligue 1. En tout cas, c'est ton avis. Tu vas nous expliquer ta position sur cette assistance vidéo. Vous le savez, on l'a vu pendant le Mondial, test grandeur nature. La Ligue 1 a adopté il y a quelques mois cette VAR ou ce VAR. Bref, on dit comme vous voulez, la vidéo. On va dire la vidéo, comme ça c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y avait une conférence de presse sur cette vidéo, comment elle va être utilisée, comment ça va se passer. Je vous propose d'écouter tout d'abord Didier Quillot, directeur général de la Ligue de football professionnel.
va lancer là pour la reprise du championnat la semaine prochaine avec un système de VAR décentralisé dans des camions, des vannes dans les stades. Ensuite, dans un an, on passera, enfin dans un an où je l'espère au mois de janvier pour les matchs retour. En tout cas, en 2019, c'est sûr, on passera à un replay center centralisé à Paris, comme il y avait à Moscou pour la FIFA. Nos arbitres sont formés depuis 18 mois. Ils ont arbitré des matchs en live, en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Donc, on va travailler sur l'information auprès du spectateur dans le stade, de façon à ce que la raison pour laquelle la VAR est intervenue et la sanction entre guillemets prononcée par la VAR apparaîtra à l'écran.
Alors voilà, ça c'est intéressant le dernier mot parce que je vous explique. Ça va apparaître à l'écran selon Didier Quilliot. Qu'est-ce qui va apparaître à l'écran pour les spectateurs, hein, pour bien comprendre la décision de l'arbitre, pour en savoir plus, mais pas beaucoup plus parce que il y a un non-dit, c'est Freddy Fautrel, ancien arbitre de Ligue 1, qui nous en dit un petit peu plus sur l'avertisseur, j'ai envie de dire, pour les spectateurs.
Alors déjà dans un stade, on va passer des clips pédagogiques avant les matchs sur les écrans géants pour expliquer aux spectateurs comment fonctionne l'assistant vidéo, quand, qui et comment. Ça me paraît important. Lors des situations d'assistance vidéo dans le stade, des écrans s'afficheront avec l'explication de la décision modifiée ou non sur les écrans pour que ce soit beaucoup plus clair pour nos spectateurs.
Alors c'est là mon petit problème, mais tu vas peut-être nous en dire plus François, peut-être que ça ne te gêne pas forcément, mais si on comprend bien Freddy Fautrel, en fait il n'y aura pas les images dans le stade. Dans le stade, il y aura juste écrit penalty, but vérifié, penalty, but accordé. Voilà, ce seront des inscriptions et non les images comme il y a pu avoir lors de la Coupe du Monde, parce que la Ligue a peur dans un premier temps que, vu que les décisions sont sujettes évidemment à interprétation,
tu peux faire sortir l'arbitre du match, ouais.
Eh ben que c'est, oui, mais l'arbitre a déjà vu les vidéos. S'il la revoit sur l'écran géant, c'est pas très grave.
Oui, mais on parle justement, et c'est là aussi où je veux en venir, à l'interprétation. Mais vas-y.
Non, mais moi c'était juste pour cette observation et pour te donner le boulet, la patate chaude, sur justement cette interprétation de l'arbitre. Et on a peur que le stade se retourne contre l'arbitre en disant oui, mais non, il n'y avait pas finalement main, comme exactement lors de la finale France-Croatie, où chacun aura son avis exactement sur la question. C'est exactement à toi, François.
Moi, je ne vais pas parler du rapport à l'émotion. Évidemment, je le comprends. On a du mal à s'habituer. Certains le font plus facilement que d'autres. Certains ont beaucoup plus de difficultés encore. Je ne vais pas parler de ça. Je vais pas parler aussi du temps qui est perdu pour certains là aussi par rapport à le travail que fait l'arbitre central lorsqu'il va consulter les images, le temps que ça lui prend et la décision qu'il peut prendre au final, pendant que non pas les spectateurs mais les téléspectateurs, beaucoup beaucoup plus nombreux, eux se font leur opinion. Non, je vais parler plutôt au niveau du travail des arbitres et des personnes qui sont autour d'elles, les observateurs, et puis la direction technique de l'arbitrage, donc dans notre fédération, qui chaque semaine fait un travail sur le fond comme sur la forme pour faire progresser les arbitres et les progresser à travers la critique, qu'elle soit positive ou négative. À mon sens, avec la VAR, ou le VAR, le travail des observateurs qui se trouvaient sur chaque match de Ligue 1 ou de Ligue 2, donc au niveau des F1, des F2, des arbitres qui officient au niveau professionnel, va être beaucoup plus réduit. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'arbitrage vidéo, par rapport à la place qu'il est censé occuper, c'est un peu comme la police scientifique avec la police judiciaire. C'est un outil de travail. En aucun cas, et c'est non pas une conviction mais une certitude de ma part, il ne doit se substituer au travail de l'homme, c'est-à-dire du central. Très bien.
Mais on y va.
Une fois que l'observateur prend du recul, le central dans son rapport avec, dans sa relation avec cet outil-là et l'arbitre vidéo et son interprétation des images, il va se retrouver confronté, je pense, en Ligue 1 et en Ligue 2 à la situation suivante. Soit il a raté quelque chose, il a loupé quelque chose, et évidemment les images à vitesse réelle sont très claires et il s'aperçoit de son erreur, et là la décision est presque entre guillemets facile et l'attente n'est pas très très longue et l'émotion d'ailleurs ne retombe pas comme un soufflé. Souvenez-vous, moi j'ai bien aimé d'ailleurs en termes d'émotion, je referme la parenthèse très vite, la réaction des Coréens à la fin du match, je crois que c'était contre les Allemands. On les voit tous attendre et puis
il leur donne le but et on les voit tous partir comme ça vers leur banc et sauter de joie. Et j'ai trouvé que c'était une vraie émotion nouvelle dans le foot. Je referme cette parenthèse donc. Il va être en relation avec ces images et un peu avec sa propre critique. Donc, soit il est confronté à un travail qui, sur 3 mois, 4 mois, voire même une saison entière, va mettre, comme un sérum de vérité, va mettre en lumière ses qualités ou ses défauts. La question la plus compliquée pour l'arbitre, et tu l'as dit, c'est l'interprétation. Il y a des situations où, en termes d'interprétation, vous le savez, mais je le redis, l'observateur, la DTA, le central n'ont pas la même la même vision, la même perception, même en revoyant les images pendant une semaine. Si on prend la main, par exemple, de Perisic en finale, on va avoir peut-être une majorité, une minorité, qui va dire, eh ben, il y avait toujours pas pénalty, ou une autre qui va dire, ben, il y avait pénalty. Ça, c'est une chose intéressante, qui va laisser, c'est le cas de le dire, le libre arbitre, au central, ainsi que les personnes qui l'accompagnent, de dire, ben, en fait, ben, l'interprétation, elle t'appartient. En revanche, il y a des interprétations qui sont mauvaises. Et ces interprétations mauvaises, la vidéo va mettre en lumière l'arbitre qui va bien faire son boulot, non pas par rapport aux règles, ils les connaissent tous, on parle pas des règles, c'est la sensibilité par rapport au jeu et par rapport à l'analyse d'une situation qui est une espèce de justice rendue dans la seconde. Et qui te permet avec la vidéo de revenir sur cette, sur ce rendu de justice. Et là, en interprétation avec la vidéo, et on s'en est aperçu un peu pendant la Coupe du Monde, tu peux toujours te tromper. Moi, ça me va. L'humain domine toujours la question, domine le sujet, la vidéo donc vient comme un outil. J'ai fait ce parallèle avec la police scientifique, avec le judiciaire. C'est le judiciaire hein, quand même hein, qui elle, au final tranche. Et d'un autre côté, tu vas avoir l'arbitre qui va utiliser évidemment la vidéo, mais qui dans l'interprétation pourra toujours se tromper. L'avantage de la vidéo pour les arbitres français, puisqu'on là on parle de notre championnat, c'est que les moyens ou mauvais se révéleront être un peu plus moyens et mauvais qu'ils ne le sont ou qu'ils ne pouvaient parfois un peu se cacher parce que personne ne voyait les images à part les télévisions et les téléspectateurs. Là, tout le monde, en tout cas lui, comme ceux qui l'accompagnent, vont lui dire « Attends, ton interprétation, elle est pas bonne. » Et puis, les bons, eh ben ils prendront les bonnes décisions, ils se corrigeront. Et puis ceux qui... Moi, je l'ai interprété de manière différente que Jean-Christophe Drouet ou Samy Pouat, mais c'est moi le central, c'est moi qui ai décidé. Et si la décision, eh bien, ne fait pas l'unanimité, eh bien, on dira, bon, ben, écoute, chapeau, parce que, au fond, c'est toi. On n'est pas forcément convaincu que tu as pris la bonne décision, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a un doute. Et ce doute subsistera malgré la vidéo. Et le bon arbitre, eh bien, il imposera son choix humain, et le mauvais arbitre, il imposera son erreur grâce à la vidéo. Autrement dit, ben les bons, ils resteront bons, et les mauvais, ils se révéleront être mauvais grâce à la vidéo. C'est pour ça que je parle de crash test et un peu de sérum de vérité. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir un accélérateur en termes qualitatifs, je pense, pour notre corps arbitral.
Merci François pour ton avis tranché, mais j'ai une autre question qui me vient, parce que on a parlé, on a entendu Didier Quillot, on a entendu Freddy Fautrel. On parle beaucoup de pédagogie par rapport au public.
C'est important.
Très important, capital. Évidemment. Un clip pour montrer dans quelle situation l'arbitre est amené à intervenir. 4 situations, on connaît maintenant depuis la Coupe du Monde, mais de nouvelles personnes viennent au stade, certaines pour évidemment pour la première fois pour le VAR pour tout le monde. Enfin voilà, c'est, on a besoin d'être pédagogique. Pourquoi empêcher les spectateurs de voir les images sur les écrans géants?
Moi, je pense que c'est pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'est pas encore prêt. Et le on, c'est à la fois les spectateurs d'une certaine manière, parce que quid de leur réaction, parce que quand ça va être une décision, quand c'est 3-1, 4-1 et que la décision se révèle être interprétable de manière différente à l'écran, bon ben le stade va pas forcément se retourner contre le central, ça va huer un petit peu.
Oui, mais au moins
si c'est un but important.
Mais oui, mais au moins on comprend.
Contre l'équipe qui joue à domicile.
Au moins on comprend. On voit sur quoi. C'est
oui, mais tu oublies une chose. Ou alors tu me fais l'économie d'un défaut particulier chez tous les passionnés. C'est la mauvaise foi. Et la mauvaise foi, elle peut prendre des relents très agressifs dans un stade, quand, surtout quand c'est à domicile et que l'arbitre, sur la foi de son interprétation, pas la foi de la vidéo, la foi de son interprétation grâce à cet outil, va peut-être prendre une décision
contre le public.
Mais en fait, on comprend ces arguments. Mais quand on est au stade, on n'est pas tous en train de crier sur les arbitres au stade. Alors,
non, je te parle de mauvaise foi, non, mais, hein, pas de.
Bien sûr. Non, mais et puis je ne dis pas
gars
que
se défoule,
c'est pas parce que je crie pas au stade que d'autres ne le font pas.
Ils ont le droit de se défouler.
Je comprends et je pense que tout le monde a conscience que parfois le supporterisme peut emmener à des choses pas forcément et même très regrettables, en tout cas pas très classe dans un stade. Ça, ok. Mais pour un spectateur, non mais pour un spectateur qui est au stade, on lui dit bah l'arbitre va voir s'il y a pénalty. Et personne ne peut voir les images, il y a que lui, ou alors faut être dans son canapé, mais c'est-à-dire que tous les spectateurs ils se disent bon on l'attend, on regarde, voilà, il est en train de regarder. On a envie en tant que spectateur de s'intéresser à ce c'est un spectacle aussi le VAR.
Honnêtement, moi je pense que le public vient pour un spectacle qu'il a payé. Et dans ce spectacle, effectivement, on te dit que maintenant dès qu'il y a une faute, il y a la vidéo. Effectivement, pourquoi le public ne pourrait pas bénéficier aussi pour certaines fautes, il y a la vidéo. Pourquoi le public pourrait pas bénéficier de cette vidéo?
Je
dis pas qu'il faudrait passer la vidéo 50 fois.
Non, mais je suis
d'accord. Mais je pense que il faut la montrer 2-3 fois parce que quelque part, effectivement, il y aura toujours de la frustration, mais ça peut aussi quelque part calmer aussi les gens en se disant que bon ben effectivement non
là on est pas prêt encore,
les ralentis, bon ben voilà, on continue à supporter notre équipe en espérant qu'ils reviennent au score ou je sais pas quoi, mais
je suis entièrement d'accord avec toi. Perso, après dans la façon de travailler, je pense qu'ils ne sont pas prêts. Je crois que c'est pas une erreur qu'ils font aujourd'hui.
Ouais, peut-être tu comprends cette décision.
Peut-être que dans 6 mois on dira que c'est une erreur pour une bonne et simple raison. J'ai fait un parallèle avec la police scientifique qui vient en aide à la police judiciaire. Quand la police judiciaire fait son procès verbal, son compte rendu, et qu'après tu passes au tribunal, ceux qui viennent dans les audiences ouvertes, ils assistent aux délibérés. Mais ils assistent aussi au travail du procureur avec les avocats. Si le public vient au stade, je trouve moi aussi normal, d'un point de vue pédagogique,
de lui montrer les pièces à conviction.
De lui montrer, exactement. Mais les arbitres, par rapport à la pression qui est la leur et qui est très très lourde et très forte, ne sont pas encore prêts, je crois, à assumer qu'en plus du fait peut-être de prendre une décision qui va mettre 60 secondes ou 75 et qui peut aller contre le sens de l'idée que tu te fais dans un match, c'est contre ton équipe, alors tu... Mais en plus qu'on montre des images qui peuvent encore plus renforcer ce sentiment d'injustice.
Donc, en gros, si je comprends, c'est l'arbitre, on dit, je vais voir la vidéo parce qu'il s'est passé quelque chose, et puis, croyez-moi sur parole, vous ne voyez pas les images, mais moi je vous annonce que c'est ça.
Mais quelque part,
comme ça, on calme tout le monde. Non, mais c'est un peu ça.
Il est détenteur de la vérité sur le cours d'un match, c'est le juge d'un match.
De toute façon, pour une première expérience, la vidéo, le VAR n'a pas fait que des erreurs lors de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y a des équipes qui ont pu être agacées justement par cette vidéo.
Les Croates, je pense qu'ils sont un peu agacés.
Peut-être.
Mais les Marocains aussi. Exactement, Perisic, il y avait pas mal.
Exactement.
Mais ça, c'est l'esprit de clocher, chacun d'entre nous.
Jean-Charles nous appelle au 32-16, supporter de l'Olympique de Marseille. Supporter ou non de la VAR, il va nous dire ça. Bonsoir Jean-Charles.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Jean-Charles.
Tu en penses quoi contre la VAR, de notre débat? Oui, évidemment.
Oui, allô?
Oui, on t'écoute. Oui, bah.
Donc, bonsoir, ravi de partager quelques secondes avec vous.
Ah bon, on est très heureux, vas-y.
Voilà, alors, je suis quelqu'un, un peu paradoxal dans ce sens que je suis contre la vidéo, mais à un moment donné, pour avoir raison ou pour avoir tort, il faut essayer. Donc, c'est bien qu'il y ait la vidéo. Vous voyez un peu le paradoxe.
C'est un peu paradoxal.
Pourquoi c'est un peu quand même. Pourquoi je suis contre la vidéo? Parce qu'en fait, c'est quoi le gros problème de l'arbitrage? Pour moi, en tout cas, ça ne tient qu'à moi ce que je dis. C'est l'interprétation. En quoi la vidéo va apporter une solution à l'interprétation?
C'est une question ou tu apportes la réponse?
C'est une question.
Je peux te répondre, Jean-Charles. Je peux te répondre. Les arbitres, quels qu'ils soient, en France ou ailleurs, qui officient au niveau professionnel, ça fait quand même pas mal de temps, et par rapport à l'accélération du jeu, qu'il y a eu un certain retard qui a été pris. Ça va très vite. Et je peux te garantir, toute bonne foi, longtemps aussi collaboré avec les représentants de l'arbitrage en France, les difficultés d'arbitrer en jugeant en une seconde d'une situation
pourrait en parler encore plus longtemps par rapport même à des éléments techniques sur l'arbitrage, ce que c'est que la blind zone, etc. Oui. La vidéo vient comme un outil, comme leur carton jaune, rouge, leur sifflet, comme un outil qui vient les aider à réduire, non pas effacer, hein, attention aux les mots qu'on emploie, réduire par rapport à la mauvaise foi qu'on peut avoir chacun d'entre nous avec la vidéo, réduire cette marge d'erreur. L'arbitre, il pourra toujours se tromper malgré la vidéo. Mais oui, a priori, mais ça, cette marge serait réduite.
Vas-y, Jean-Charles.
Mais ça, je l'entends bien, il n'y a pas de souci. Ça va réduire, enfin, moi je dis simplement, hein, ça va réduire 10% des erreurs d'arbitrage. Et ceci dit, il va en rester une dizaine de pourcents. Et cette dizaine de pourcents, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné,
On continue à vivre le foot comme on l'a vécu depuis la fin du 19e siècle.
Avec la vidéo, on change de planète pour moi. Dans ce sens où, avant la vidéo, l'erreur, l'arbitre se foirait. Ok?
Ok, oui.
Aujourd'hui, avec la vidéo.
Oui.
Tout à l'heure, j'entendais parler.
Vas-y, Jean-Charles.
Allô?
Allô, vous m'entendez?
Oui.
Oui, je disais, la vidéo aujourd'hui est en train de devenir, est tout simplement un support de preuve. C'est-à-dire que l'arbitre prend une bonne ou une mauvaise décision. Ok? À un moment donné, ça va se passer dans un match avec des intérêts, avec des trucs qui dépassent l'entendement. Si l'arbitre prend une mauvaise décision, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir des plaintes en civil.
Non, mais on continuera de débattre en disant qu'il y avait une mauvaise interprétation, tout ça.
Non, tu peux pas. C'est.
On est d'accord, la FIFA va l'interdire. Ok, parce que la FIFA, d'accord, ok, c'est l'instance la plus puissante du monde. On est d'accord. Mais si un jour il y a une nation ou un grand club qui décide de passer outre.
Mais ça n'a pas de. Pardon, Jean-Charles, ça n'a pas de sens parce que tu ne peux pas attaquer aux civils un arbitre, quel que soit le sport qui soit, si tu n'as pas une preuve qu'il a été corrompu, tu vas au pénal. Le mec, il fait là pour faire son boulot.
Oui, et puis on n'était pas forcément dans le sujet. Merci beaucoup, Jean-Charles, d'avoir composé le 32-16. À bientôt, toi, supporter de l'OM. On aura le temps dans l'after de reparler de Marseille, évidemment. On se retrouve dans quelques instants un petit peu pressé parce que Samy Poix a quelque chose à nous dire sur les hommes, sur les joueurs, sur nous quelque part, sur les pères aussi. À tout de suite.
RMC, l'after jusqu'à 23h, Jean-Christophe Drouet.
Toujours avec François Manardeau, avec Samy Poix, nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Appelez-nous au 32-16 pour nous interpeller aussi pour le quiz. Un magnifique jeu à gagner, ça a un lien avec l'équipe de France. Donc appelez-nous au 32-16, qui de François Manardeau ou de Sam Poix va vous faire gagner ce magnifique cadeau. Mais bon, tout de suite.
Hier j'ai gagné. Hein. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais...
Ouais.
Toi.
La revanche, c'est ce soir. Tout de suite, c'est la vie tranchée de Samy Poix.
Le voir comme ça en pugila.
Pugila. Sinon,
il
était pugila.
Cyprien, il est dur, il est fort. Temps, hein. Putain, ils n'ont pas perdu de temps.
Attendez, c'est sous la houlette de notre producteur Cyprien Bétou. Donc forcément, Cyprien. Tout va très très vite. Et dès que vous sortez... donc Bouba, il était en pyjama. Ben. C'est ça que tu voulais nous dire. Ou en pugila, enfin, on n'a pas bien compris. Ne t'inquiète pas, Samy Poix. Alors, j'explique et ensuite, tu nous feras ton avis tranché. C'est une affaire qui est en train de prendre un peu d'épaisseur outrement. Il y a une semaine, Anthony Martial a quitté le stage de pré-saison pour se rendre aux côtés de sa compagne qui devait prochainement accoucher. Et Mourinho laissait en conférence de presse quelques sous-entendus juste après le départ d'Anthony Martial. On ne va pas écouter Anthony José Mourinho. Qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette? Est-ce que c'est bon? On peut écouter. Je ne vais pas refaire tout mon lancement, mais vous avez compris, quelques sous-entendus juste après le départ du Français.
J'ai découvert qu'Anthony Martial se rendait à Paris lorsqu'il me l'a dit. C'était il y a 2-3 jours. Lorsqu'il s'agit de raisons personnelles, chacun fait sa propre analyse. Il a agi de la façon qu'il a jugé la mieux appropriée. Lorsqu'un homme est sur le point de devenir père, et dans ce cas pour la seconde fois, mais il est sur le point d'être père, il a décidé qu'il était très important pour lui de partir. Je pense que personne n'a le droit de l'arrêter.
Bon, on sent pas un énorme soutien de la part de José Mourinho. On sent que il est en train d'essayer de nous dire quelque chose par rapport au départ de son attaquant. Aujourd'hui, l'entraîneur portugais était de nouveau en conférence de presse. Petite pique, un peu plus claire peut-être.
Anthony Martial, il est préférable que Karen réponde si elle le souhaite.
La question, c'était sera-t-il de nouveau dans le groupe au retour de l'équipe ? Il a préféré laisser répondre son assistante en communication, Karen. Donc, il voulait parler que du match et pas d'Anthony Martial. Selon le Manchester Evening News, le club, contrarié par l'absence de son joueur, songerait à lui infliger 200 000 euros d'amende. Aujourd'hui, Anthony Martial est sorti du silence. Enfin, du silence. Il a écrit quelque chose, donc c'est pas du silence. Mais nous avons pu voir sur les réseaux sociaux ce tweet d'Anthony Martial. Merci à tous pour vos messages. Mon petit Swan va bien. Pour la maman, ça a été plus difficile, mais grâce à Dieu, elle va mieux maintenant. Désolé, mais ma famille passera toujours avant tout. Retour demain à Manchester. Samy Poit, ton avis tranché. Les footballeurs doivent vivre avant tout leur vie d'homme.
Tout à fait. Moi, José Mourinho, c'est un manager que j'aime beaucoup. Il a prouvé que depuis tant d'années, qu'il savait gagner, qu'il savait manager une équipe, des grands joueurs. Maintenant, j'ai comme l'impression que ça fait quelques années où il dérive, quoi. Il n'est plus vraiment dans le management. J'ai comme l'impression qu'il commence à être dépassé et il prend souvent des excuses comme ça. Donc là, c'est Martial, alors que c'est un joueur, je crois que il compte pas vraiment sur lui. Moi, ce qui me gêne avec ça, effectivement, lors de l'interview, il a l'air... Effectivement, il dit comme quoi que Martial, effectivement, quand t'as une naissance, tu dois être auprès de ton épouse. Mais de toute façon, ça n'a pas l'air sincère. C'est un peu... Il en sent un peu...
On sent vraiment les sous-entendus derrière, sous-entendus, en disant en plus c'est son deuxième. Bon.
Beaucoup d'hypocrisie dans son discours. Et maintenant, il veut lui infliger une amende. J'espère que tous les managers ne feront franchement pas comme vient de faire Mourinho. Parce que quand même, pour un manager qui dirige une vingtaine de joueurs, si c'est comme ça que tu manages une équipe, en disant en tout cas à tes joueurs, à tes éléments, bon, des sous-entendus pareils, je crois que la saison déjà commence très très mal, quoi. Je crois que c'est pas la meilleure façon de manager, parce que il faut se dire que les autres joueurs aussi entendent ça, parce que les autres joueurs peuvent se dire, mais attends, peut-être que le jour que mon épouse sera aussi en phase d'accoucher, peut-être qu'il tiendra aussi le même discours que moi. Et ça, les joueurs l'entendent ça. Et ça peut créer quand même une certaine polémique. Maintenant, vous vous rendez compte, comment peut-on reprocher à un joueur, d'autant plus que apparemment le petit et sa femme avaient quelques problèmes.
En tout cas, c'est ce que laisse deviner le tweet pour sa femme. Pour le petit, elle est bien, mais sa femme, nous dit que ça a été difficile.
Voilà. Mais en tout cas, on va le croire quand même.
Évidemment, on va le croire. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Moi, je souhaite que, de toute façon, que tous les footballeurs, tous les sportifs et tous les hommes d'ailleurs, je trouve absolument normal que quand on épouse et justement est en train de vouloir accoucher, que tu te trouves auprès d'elle. Je crois que c'est quand même ton devoir d'homme, quoi. Je trouve que, sincèrement, Mourinho, là-dessus, je le comprends pas.
Ce n'est pas parce qu'il a pu avoir un problème ou qu'il a encore un problème avec Anthony Martial qu'il doit réagir de la sorte. C'est ton avis tranché, Samy Poit. François, une petite réaction.
Moi, je pense que vous êtes enflammés, les gars, deux raisons. D'abord, je pense que du côté de Manchester United, c'est pas le fait de lui reprocher de se rendre au chevet de sa femme qui va donner naissance à son deuxième enfant. Je pense que c'est peut-être dans la manière, vous savez, quand on est dans une entreprise, un club de foot est aussi une entreprise, pas comme les autres, mais c'est aussi une entreprise. Quand on est dans une entreprise et que, voilà, on est trois hommes ici, on est tous pères, je crois.
Non, mais il faut savoir, avant de continuer, parce que je vois où tu vas en venir, François, Martial l'a prévenu, oui, mais il a prévenu trois jours avant.
Qu'il allait se barrer.
Bien sûr,
qu'il le savait depuis 9 mois, c'est un scandale.
Bien sûr. S'il a bien dit, je quitte le groupe ou le stage, parce qu'ils doivent être en préparation, ils reprennent début août, là, le championnat, et s'il en a informé le club, et que le club lui en tient rigueur, et dans ce cas-là, là, il y a quelque chose en revanche qui m'échappe complètement, parce que je vois pas une raison, une seule raison valable.
Ben, la seule raison.
De reprocher. Alors après, vous avez fait des sous-entendus, et Jean-Christophe, tu disais, oui, mais alors quand on lit un peu entre les lignes, enfin, tu le disais pas comme ça, mais oui, il y a matière à interpréter. Oui. Moi, je l'interprète pas. Je trouve que il doit y avoir peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Alors, ok, toi, Sam, tu nous dis, il a prévenu le club, ouais. Donc il a fait son boulot professionnellement. Comme nous, quand on est père, ben on dit à l'entreprise, ben je viens d'être papa, congé paternité, je m'en sers et puis je me barre soit dans 24 heures, soit je l'utiliserai dans un mois ou dans deux mois. Bref, on prévient la boîte, c'est le minimum. C'est ce qu'il faut faire. Si lui, il l'a fait, moi je peux pas comprendre que Mourinho, à mot couvert, lui en tienne rigueur.
Il y a quelque chose que l'on ne sait pas, en tout cas, c'est ton analyse. On a plus le temps, si tu veux, tu pourras répondre à François Manardo ou lui péter les tibias, tu feras comme tu veux. Il y aura la pub, il y aura juste deux minutes, et nous on se retrouve. Non, évidemment, pas de violence dans l'after. On s'aime, on débat, et on adore ça, et on jouera d'ailleurs.
Il y a pas de bouba ni de caresse ici.
Exactement, de 22h40, et en plus on n'est pas en lit. Donc voilà, ça tombe bien. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de la Hassan Adira interview exclusive sur RMC signé Saber Defarge. À tout de suite sur RMC.
RMC, le super football show, l'after foot.